Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Dans quelques jours, l'Union européenne célébrera son 60e anniversaire. Le 25 mars 1957 était en effet signé le traité de Rome, la communauté économique européenne venait de naître. 60 ans après, c'est devenu un lieu commun que de parler de crise à propos de ce projet. L'Europe est divisée, la semaine écoulée vient d'en donner une nouvelle illustration à propos de la Turquie. Plusieurs Européens, parmi lesquels l'Allemagne et les Pays-Bas, avaient pris des mesures pour empêcher des représentants du gouvernement turc de mener campagne sur leur sol, en vue du référendum constitutionnel d'avril prochain. La France, en revanche, elle a accueilli un meeting à Metz le week-end dernier, auquel participait le chef de la diplomatie turque. Un manque évident de coordination, voire de solidarité entre États membres. Dans l'idéal, c'est la diplomatie des 28 qui aurait dû apporter une réponse commune au nom de la défense des valeurs européennes. Mais en la matière, si une telle institution existe, en la personne de Federica Mogherini, elle a bien du mal à se faire entendre comme telle. D'autant plus que sur cette question des valeurs, les Européens peinent à avancer groupés. C'est que la tentation autoritaire ne se joue pas seulement aux frontières de l'Union, mais aussi en interne. Comment parler d'une même voix à la Russie de Poutine, aux États-Unis de Trump, à la Turquie d'Erdogan, quand on compte dans ses rangs la Hongrie d'Orban? Alors l'Europe, face aux dérives autoritaires désunies ou démunies? Eh bien, c'est la question que nous posons à notre club des idées du vendredi, auquel participe ce soir Ludivine Bantigny. Bonsoir.
Bonsoir.
Historienne, maître de conférences en histoire contemporaine à l'université de Rouen. Sylvain Kahn, bonsoir.
Bonsoir Hervé Gardette.
Historien et géographe, professeur à Sciences Po. Et Sylvain Bourmeau, bonsoir.
Bonsoir Hervé.
Vous enseignez à l'EHESS et vous êtes producteur à France Culture de La Suite dans les idées tous les samedis à 13h30.
When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems. And they're bringing those problems with us.
La crise migratoire va continuer tant qu'on ne s'occupera pas de ses racines profondes. Cela va durer jusqu'à ce que tout le monde reconnaisse que les migrants sont le cheval de Troie du terrorisme.
Aujourd'hui, les nazis essaient d'agir au niveau politique, en Slovaquie et dans toute l'Europe. Comme les gens n'ont pas d'alternative en cette période de crise et d'échec des politiques, ils ont tendance à être d'accord avec les néo-nazis.
Devant le Parlement polonais ce soir encore, des rangées de policiers et face à eux, des milliers de manifestants. Au son des cornes de brume, des slogans pour demander la démocratie.
Une chevelure peroxydée et un sens aigu de la formule raciste. Geert Wilders, 53 ans, a fait irruption dans le paysage politique néerlandais au début des années 2000, bâtissant sa notoriété sur sa haine viscérale de l'islam.
Certains politiciens parlent de nazisme et de fascisme et font le lien avec les Pays-Bas. Notre pays a été bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale par les nazis. Ces propos sont inacceptables. Bien évidemment, nous ne formulerons aucune excuse, c'est à eux d'en faire.
Voilà, montage signé comme chaque semaine Jean-Christophe Francis, dans lequel vous avez pu entendre notamment Donald Trump, le Premier ministre hongrois Viktor Orban, et le dernier à s'exprimer, Mark Rutte, Premier ministre néerlandais, qui évoquait non pas les législatives aux Pays-Bas qui avaient lieu cette semaine et qui l'ont vu arriver en tête avec sa formation politique, mais qui évoquait la réaction du gouvernement turc suite à cette décision des Pays-Bas d'interdire des meetings pro-gouvernement turc sur son sol et d'interdire surtout l'atterrissage du chef de la diplomatie turque. Les Pays-Bas ne sont pas les seuls, hein, je le disais en ouverture de cette émission, à avoir pris une telle décision. Il y a également eu notamment l'Allemagne. La France, elle, a fait un choix différent en autorisant un meeting à Metz la semaine dernière. À qui donneriez-vous raison, Ludivine Bantigny?
Non, mais c'est terrible, c'est qu'arrive des cils là. Donc, c'est vrai que la situation est particulièrement grave. On pourrait y revenir dans le fond sur la situation sociale et économique en Europe, hein, qui conduit à ADN réciproque très grave. Sur la crise qui oppose, notamment la crise diplomatique qui oppose les Pays-Bas à la Turquie, En fait, on a d'un côté une exploitation ultranationaliste de la part du régime meurtrier et tortionnaire d'Erdogan, de plus en plus dictatorial, qui n'hésite pas à brandir les qualificatifs de nazi ou de fasciste. Hein, c'est le ministre des Affaires étrangères turc qui a qualifié l'AE de bastion du fascisme. Donc c'était pain béni pour lui dans sa campagne, dans la perspective du référendum qui aura lieu le 16 avril prochain pour renforcer encore les pouvoirs d'Erdogan. Mais de l'autre côté, c'est vrai que du côté des Pays-Bas, et sans les renvoyer dos à dos, hein, mais du côté des Pays-Bas, il y avait aussi un contexte électoral et dès lors particulièrement démagogique, notamment en refoulant du consulat de Turquie, une des ministres turques qui, de surcroît, est musulmane et donc voilée. Donc, il y a eu aussi une instrumentalisation politique dans le contexte de la campagne entre Rutte et Wilders. Donc,
La France a bien fait, finalement, elle, en tout cas, d'accueillir ce meeting en prétextant que, au nom de la liberté de
liberté
réunion.
D'expression. Mais de toute façon, c'est évident que mettre encore de l'huile sur le feu dans une situation aussi grave du point de vue de la montée des tensions, ça aurait été ne faire qu'aggraver la catastrophe en cours.
Votre point de vue, Sylvain Kahn ?
Comme toujours dans l'Union européenne, on s'étonne, et en général sincèrement, comme vous l'avez fait à l'instant, Hervé, de ce que vous avez appelé la désunion ou du manque de position commune. Alors, soit on dit « Ah, c'est quand même incroyable, les Européens, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, comment ça se fait, etc. » Soit on dit « Ah bah quand même, c'est quoi ce bordel, ce super État qui veut tout imposer à tout le monde et tout le monde doit marcher au carré ?» L'Union Européenne, c'est un truc qui n'a pas d'équivalent ailleurs. C'est une espèce de fédération d'États-nations, moi je pense de démocratie d'États-nations. Donc à partir de là, sur un certain nombre de sujets qui engagent, on va dire, peut-être, je ne sais pas, la sécurité, l'intégrité de chacun des États membres. Il arrive en termes diplomatiques que les États membres arrivent à se mettre d'accord. C'est le cas, par exemple, s'agissant actuellement, depuis 2014, de la politique de l'UE vis-à-vis de la Russie de Poutine, après l'annexion de la Crimée et la guerre que la Russie livre dans l'est de l'Ukraine. C'est par exemple...
Ils arrivent à se mettre d'accord, même s'il y a quand même quelques débats en interne pour savoir s'il faut reconduire ou pas les sanctions économiques.
C'est comme si on disait « Ah ben tiens, il y a une Assemblée nationale en France, comment ça se fait qu'il y ait des débats ?» C'est pas logique qu'il y ait des débats. Tous les députés devraient penser exactement pareil.
Oui, mais est-ce qu'en la matière, il n'aurait pas été plus simple quand même et plus pertinent de discuter de cette question et d'essayer d'avoir une position commune? Parce que alors là, d'un coup, côté, l'Allemagne, les Pays-Bas qui disent non, on interdit les meetings, la France qui dit on les accepte.
D'abord, il y a 28 États, donc là, on parle que de 3 États. Deuxièmement, en Allemagne, sauf erreur de ma part, c'est les Länder qui prennent les décisions sur le sujet. C'est pas le gouvernement fédéral. La République fédérale d'Allemagne, c'est un État fédéral. Moi, j'y peux rien. Donc, ça, c'est de l'ordre de la responsabilité des Länder. Il se trouve qu'en France, c'est le gouvernement qui décide et aux Pays-Bas aussi. Il se trouve qu'en Allemagne, comme chacun sait, il y a une très, très forte communauté, soit d'Allemands d'origine turque, soit de Turcs qui sont installés en Allemagne. Donc les contextes sont très différents.
Donc chacun avait de bonnes raisons de prendre cette décision, de ne pas prendre de décision. Parce que j'essaie de savoir ce que finalement.
C'est pas de ne pas prendre de décision, parce qu'il y a des décisions.
Enfin, de ne pas prendre de décision, j'entends par là la France qui finalement accepte.
Il y a des décisions différentes qui ont été prises, sachant que c'est pas forcément inutile d'un point de vue diplomatique que par rapport à un partenaire, si j'ose dire, ou en tout cas un État voisin comme la Turquie, qui, comme l'a dit Ludivine Bontini, est dans une dérive autocratique, voire dictatoriale, c'est pas forcément idiot qu'on ait, si j'ose dire, des bad cops et des good cops, si vous voulez. Je veux dire, on est 28. Si vous voulez, je pense que la
bad
diplomatie...
Bad cop, good cop, je le dis pour ceux qui ne parleraient pas totalement l'anglais, les bons policiers, les mauvais policiers.
Ouais, comme il y a dans les séries françaises ou américaines, quoi. Voilà, on envoie des signaux contradictoires, c'est pas forcément une mauvaise idée, d'un point de vue diplomatique. Donc, ce que je veux dire par là, Hervé, c'est qu'il me semble que ce sujet-là ou ce problème-là n'est pas forcément le meilleur sujet pour se demander comment, jusqu'où et quand l'Union européenne doit avoir une diplomatie unifiée. C'est ça que je veux dire. Voilà. Ça dépend des sujets, ça dépend des problèmes.
Sylvain Bourbon.
Je suis entièrement d'accord avec la conclusion de Sylvain Kahn. Je pense que ce n'est pas un sujet d'Union européenne du tout. C'est-à-dire que le fait de savoir si un État membre de l'Union européenne accueille ou non des autorités publiques turques pour tenir des meetings, jusqu'à présent, ce sont des prérogatives qui appartiennent aux États membres. Ça n'a rien à voir avec l'Union européenne. Alors après, qu'on se pose la question de savoir s'il n'aurait pas été souhaitable que des relations multilatérales permettent d'établir une position commune d'un certain nombre d'États particulièrement exposés à cette visite pour faire des meetings, c'est évident. Mais je crois que on a très souvent l'occasion, et souvent à juste titre, de taper sur l'Union européenne. Je pense que le faire dans ce cas-là, en se plaignant du fait que l'Union européenne ne fonctionnerait pas parce que on ne serait pas arrivé à une position commune de tous les États, et de mauvaise foi, c'est-à-dire que on peut le regretter. Moi, personnellement, je préférerais vivre dans une démocratie européenne qui soit suffisamment intégrée pour avoir une diplomatie, une politique extérieure et aussi une politique de contrôle de ses frontières, de visas, une politique intérieure européenne, si j'ose dire, à l'intérieur des grandes frontières de l'Europe, et que ces questions appartiennent en propre aux instances de l'Union européenne. Mais c'est pas le cas. Donc, ne tapons pas à bras raccourcis sur les pouvoirs européens, que ce soit le Parlement, la Commission, en l'espèce. Ils ne sont pas compétents. C'est pas du tout le problème. C'est-à-dire
Là, je parlais pas des institutions, je parlais bien des États, mais il y a quand même eu pas mal de réactions politiques. Alors, est-ce qu'elles étaient totalement, neutres en la matière, mais en France, suite à cette affaire, disons que la France avait manqué à son devoir de solidarité en la matière, de solidarité,
oui,
à l'échelon européen.
Mais ça pose la question du multilatéralisme, que François Hollande ou Jean-Marc Ayrault ou M. Cazeneuve soient en contact étroit avec leurs équivalents aux Pays-Bas, en Allemagne, pour décider d'une position commune, ou au contraire décider d'une division du travail sous le modèle good cop, bad cop dont parlait Sylvain Kahn. Pourquoi pas ? Il faut quand même dire une chose qu'on n'a pas rappelé, c'est-à-dire que au-delà de la question turque et de la question de l'Europe, ça pose un problème relativement inédit. C'est pas tous les quatre matins que vous avez des pouvoirs publics étrangers qui viennent tenir des meetings sur le sol d'un pays. C'est-à-dire que, mais imaginez la même chose avec, je sais pas moi, les généraux algériens qui auraient fait des meetings en France à l'époque, je sais pas, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Mais comment aurait-on réagi? Et si ces généraux algériens avaient voulu faire des meetings en Allemagne, alors on se serait retrouvé dans la position inverse, puisque la grande population d'origine algérienne ou de nationalité algérienne habite en France et pas en Allemagne. Là, comme le rappelait Sylvain Kahn aussi, il y a beaucoup de Gastarbeiter qui sont des Turcs, et là depuis longtemps, mais avec la nationalité turque et le droit de vote. Donc ça pose un vrai problème d'ingérence dans la politique intérieure. C'est un problème classique qui n'a, d'une certaine façon, à certains égards, rien à voir avec M. Erdogan. Je veux dire, c'est un problème de droit international.
Et d'ailleurs, à ce sujet, enfin, la chef de la diplomatie européenne vous donne plutôt raison à l'un à l'autre, puisque dans une réponse qu'elle a faite, réponse commune avec le commissaire chargé de la politique de voisinage, Johannes Hahn, ils disent « les décisions relatives à la tenue de réunions et de rassemblements relèvent de l'État membre concerné ». Sylvain Kahn.
Oui, ce que je veux dire pour rebondir sur ce que vient de dire Sylvain Bourmeau, c'est que n'oublions pas, c'est un exemple évidemment qui peut paraître plus anecdotique numériquement ou démographiquement, mais qu'il y a en France des sénateurs et des députés, des Français de l'étranger. Bon, il y en a qui vont être élus là, dans le cadre du renouvellement de l'Assemblée nationale en juin 2017. Ben, les ministres français, ils vont faire campagne, ou les chefs de parti français, ils vont faire campagne dans le monde entier.
Vous avez même des candidats à la présidentielle qui vont faire campagne à l'étranger.
Voilà. Hein, bon. Alors, s'agissant
mais
de.
Mais la... c'est pas tout à fait si le même contexte.
Ils font pas des meetings avec des milliers de personnes.
Oui, ils font pas des meetings avec des milliers de personnes parce qu'effectivement, bon, c'est sûr, les 200 000 Français de la communauté française de Londres, ils se déplacent moins que la communauté turque. Bon, mais. Avec la Turquie, c'est quoi le problème? Parce que là, finalement, on parle de ça, et en vérité, on ne parle pas, me semble-t-il, de ce qui est le vrai problème.
J'allais venir,
de
justement.
Turquie. Le vrai problème de Turquie, il est double. Le premier, pour prendre par ordre chronologique le plus récent, c'est que l'UE, à l'instigation de la chancelière de la République fédérale d'Allemagne, Mme Merkel, a signé, depuis un an maintenant, un accord par lequel la Turquie s'engage à empêcher, disons, à garder sur son territoire tous les migrants qui viennent de Syrie, d'Afghanistan ou d'autres régions, d'autres pays, pardon, du Proche et du Moyen-Orient, sachant que la Turquie accueille déjà, avant cet accord, accueille en tous les cas sur son territoire près de 3 millions de réfugiés syriens, bon, dans des conditions qui sont moins pires que ce qu'on dit souvent. Souvent, le problème avec la Turquie, si vous voulez, c'est qu'elle n'a pas signé les protocoles additionnels aux conventions de Genève. Voilà, c'est ça le gros problème. Or, à partir du moment où l'Union européenne a signé cet accord avec la Turquie, ça veut dire que elle considère, alors que juridiquement, il n'y a pas les garanties, que la Turquie est un pays qu'on va appeler fiable, s'agissant non seulement des droits de l'homme, mais de la manière dont les demandes d'asile sont traitées et la manière dont les migrants sont traités. Bon. Et ça, si vous voulez, c'est un problème, on peut dire, à la fois en termes de valeur, mais également juridique. Et deuxièmement, c'est aussi un problème, on va dire, politique et géopolitique. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que maintenant, la Turquie fait un chantage, en tout cas, elle menace de le faire en tant que de besoin, en disant, si vous faites pas, vous, Union européenne, ce qui nous plaît à nous, dirigeants turcs, eh ben, comme dans le cirque antique, on lâche tous ces migrants, ils voilà, laissent venir.
La déclaration du jour, voilà, c'était de dire, voilà, on en laisse passer 15 000 par jour. Mais est-ce que vous considérez les uns et les autres que l'Union européenne s'est peut-être justement privée d'une capacité de réaction par rapport à la situation politique qui est celle de la Turquie aujourd'hui, en passant cet accord, c'est-à-dire en se disant, on ne va surtout pas aller trop loin dans la condamnation du régime de Recep Tayyip Erdogan, parce qu'on a passé cet accord sur la question des réfugiés. Et que bah, on ne veut surtout pas que la Turquie mette ses menaces à exécution. Et donc, on va dire que voilà, les critiques qui sont formulées à l'égard du gouvernement turc sont peut-être un peu trop, comment dire, modérées, Ludivine Martini.
Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire d'ailleurs, mais c'est un phénomène que l'on retrouve pour la Turquie comme pour bien d'autres pays, puisque des intérêts divers, qu'il s'agisse d'intérêts économiques, stratégiques et militaires, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, l'Al-Sissi, etc. Sont en jeu pour expliquer et éclairer la manière dont l'Union européenne, qui en effet n'est pas une démocratie européenne, moi je reprendrai la formule de Sylvain Bourmeau tout à l'heure, c'est vrai qu'on n'est pas en démocratie européenne et surtout pas en matière de prise de décision de cet ordre géostratégique et diplomatique. Donc je pense qu'on est face à une véritable et immense hypocrisie, notamment quand d'un côté on fustige, et à juste raison, les propos et les pratiques de Trump sur la question migratoire, mais qu'on réserve exactement le même sort en Europe, au sein de l'Union européenne, aux migrants, et on les refoule hypocritement aux frontières, notamment, comme vient de le rappeler Sylvain Kahn, on les cantonne aux espaces turcs, et on n'hésite pas à dresser des murs, des palissades au niveau de la Grèce, comme si, voilà. Donc en fait, on est dans une situation quand même assez catastrophique où d'un côté, on a une politique menée à l'échelle de l'Union européenne qui est une politique d'austérité néolibérale extrêmement dure qui ne fait qu'alimenter des courants d'extrême droite, nationalistes, xénophobes qu'on en voit partout dans l'Union européenne. Donc c'est une véritable spirale infernale. Et dans le même temps, on a ces discours qui ne sont pas forcément xénophobes au sens strict, mais qui sont profondément anti-migrants partout dans cet espace, qui là aussi nourrissent ces courants d'extrême droite. Donc voilà, moi je pense qu'on est sur un socle absolument essentiel ici d'une hypocrisie, encore une fois, qu'on a trouvé comme un microcosme dans cette tension diplomatique entre les Pays-Bas et la Turquie.
Et à propos justement de cette relation, pas seulement d'ailleurs entre les Pays-Bas et la Turquie, mais entre l'Union européenne et la Turquie, je voudrais juste vous citer un extrait d'une tribune qui a été publiée dans Le Monde cette semaine, d'un collectif. Alors il y a des journalistes, des artistes, des politiques, des citoyens. Tribune donc publiée dans Le Monde qui dit ceci: l'Europe est actuellement barricadée derrière la crise des réfugiés et ne semble pas se rendre compte des dangers de la disparition de la démocratie en Turquie. L'Europe doit prendre ses responsabilités en revenant vers les valeurs qu'elle avait définies, la démocratie, les droits humains, la liberté d'opinion et d'expression. Est-ce que vous diriez, Sylvain Bourmeau, qu'aujourd'hui, en Europe, on a quand même pris un peu trop de distance avec ces valeurs-là qui viennent d'être éditées ?
Ça dépend ce qu'on appelle en Europe, c'est-à-dire que les États membres ont été, je pense, bien contents de pouvoir faire endosser à l'Europe, sans préciser ce que c'est, cette politique dont parlait Ludivine Bantigny à l'instant, c'est-à-dire le fait de passer un accord avec la Turquie pour gérer cette crise migratoire. Et donc c'est l'Europe qui est responsable de ça, et chacun dans les États membres peut donc se défausser, en quelque sorte, ne pas véritablement endosser, assumer cette politique. Donc on voit qu'effectivement, on peut faire le parallèle avec Donald Trump, mais en même temps, ce parallèle s'arrête là, puisque Trump, lui, je dirais, non seulement assume, mais brandit cette politique migratoire de fermeture des frontières. Aucun dirigeant européen, en tous les cas des grands pays européens, n'ose tenir ce discours. Après, les politiques à l'intérieur, on a vu qu'elles étaient quand même aussi sensiblement différentes. Et on a vu des choses qu'on peut, d'une certaine façon, considérer à front renversé. On a vu une politique migratoire d'une chancelière allemande de droite beaucoup plus ouverte qu'une politique menée par un gouvernement de gauche en France. Donc ça, ça interroge aussi beaucoup. Ça en dit long sur le climat politique dans lequel certains pays, en particulier la France, se trouve. Je dirais que face à cette situation terrible, moi je ne peux pas m'empêcher de regarder un peu en arrière, je ne peux pas m'empêcher de me souvenir avoir lu des livres passionnants et convaincants, notamment l'un signé Michel Rocard, demandant au milieu des années 90 à l'Europe d'intégrer la Turquie en son sein. Et je pense que si l'Europe avait été redessinée de cette manière il y a 20 ans, la situation se trouverait assez différente aujourd'hui. Alors on ne va pas refaire cette histoire et cette géographie. La situation est abominable. Et là où je rejoins ce que disait Ludivine Mantini, c'est sur cette espèce de machine infernale aujourd'hui que l'on a au cœur de l'Europe et que l'on a au cœur de notre pays, comme de beaucoup d'autres pays. Cette machine qui fait que d'un côté, on a ces politiques néolibérales qui sont portées par des États-nations, portées par les institutions européennes et qui produisent en un effet de réaction, je dirais, ces mouvements nationalistes xénophobes qui sont alimentés par cette crise migratoire. Et on voit désormais comment ce couple infernal fonctionne, ce couple infernal qu'on risque de retrouver au deuxième tour de l'élection présidentielle française et qui ne laisse plus la place pour ce qui seul permettrait la reconstruction européenne, c'est-à-dire une Europe qui serait construite sur des principes politique, sur des principes sociaux et pas uniquement sur des critères d'économie, puisqu'il semble qu'il n'y ait que ça qui intéresse, hélas, nos gouvernants, et que à force de ne parler que d'économie, eh bien on se prend les discours nationalistes et xénophobes en retour, en pleine figure.
Alors je ne sais pas, mais j'imagine que oui, dans votre esprit, que un des résultats en tout cas de ce couple infernal, c'est ce qui est à l'œuvre depuis déjà pas mal de temps, d'ailleurs en Hongrie, avec ce Premier ministre Viktor Orban qui fait beaucoup parler de lui. Avant de poursuivre la discussion, je voudrais juste vous faire écouter un court extrait d'un reportage qui a été diffusé avant-hier dans une émission de France 3, Avenue de l'Europe, le MAG. Reportage intitulé « Hongrie, le beurre, l'argent du beurre et le sourire de l'Europe ».
Été 2015, des milliers de réfugiés pénètrent en Hongrie. Le gouvernement bloque le flux en érigeant un mur. Il refuse de prendre sa part du fardeau et d'accueillir 2000 migrants. Puis, le Premier ministre cherche l'assentiment du peuple. Il organise un référendum pour demander aux Hongrois s'ils sont pour ou contre cette exigence de solidarité européenne. Voici l'une des affiches de la campagne. Depuis la crise migratoire, les harcèlements sexuels ont fortement augmenté. Une peur de l'autre orchestrée par le Premier ministre qui a refusé de nous rencontrer. Il réserve ses discours aux médias qu'il contrôle.
Tôt ou tard, on sera une minorité sur notre propre continent. Si on les laisse tous entrer, ça signifie la fin de l'Europe. Un bon migrant, c'est un migrant qui ne vient pas. Le meilleur chiffre, c'est zéro.
Une opinion très répandue à l'Est, mais en opposition avec les valeurs européennes.
Voilà, on a mis le lien de ce reportage très intéressant sur notre site franceculture.fr, à la page du Grand Monde. Sylvain Kahn, comment se fait-il que de telles pratiques, telles qu'on les entend et telles qu'on les connaît, du fait de la Hongrie, mais il n'y a pas seulement, puissent être faites au sein, aujourd'hui, de l'Union européenne?
Ça s'explique. C'est pas parce que ça s'explique que... Il ne faut pas en être étonné comme vous l'êtes. Mais s'agissant de la Hongrie, c'est un problème, si j'ose dire, de politique intérieure à l'Union européenne. C'est-à-dire que Viktor Orban...
Il peut y avoir des sanctions quand même.
Viktor Orban, c'est un personnage, me semble-t-il, très très important. C'est très très bien qu'on en parle à plusieurs reprises ici. Parce que d'une certaine manière, il précède Trump. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai bien aimé votre archive, enfin votre montage, le montage de votre réalisateur au début. Parce qu'effectivement, d'une certaine manière, Orban a ouvert la voie à Trump, au moins d'un point de vue idéologique. Orban, c'est quelqu'un qui a été élu, enfin, qui est devenu Premier ministre de la Hongrie pour la première fois en 98. À l'époque, c'est un jeune libéral. C'est un des derniers dissidents qui a contribué à la chute du régime communiste en Hongrie. Et puis, il perd le pouvoir en 2002. Il y a des alternances tous les 4 ans. Et il droitise considérablement le programme de son parti avec son parti qui s'appelle la Fidesz. Puis il gagne le pouvoir, il revient au pouvoir en 2010. Il faut savoir qu'en Hongrie, il y a un vrai parti néo-nazi. Hein. Dans l'Europe actuelle, il y a deux vrais, entre guillemets, au sens d'authentique, historiquement, partis néo-nazis. Il y en a un qui est en Hongrie qui s'appelle le Jobbik, et un qui est en Grèce qui s'appelle Obdoré. Et donc, l'extrême droitisation du parti centriste droit de Orban montre bien comment, à l'échelle de l'Europe, il y a une espèce de diffusion des idées d'extrême droite chez un certain nombre de partis de gouvernement.
Mais qui devient incompatible avec ce que sont censés être les valeurs de l'Union européenne.
Qui devient incompatible, effectivement, on va dire, sur le papier ou en théorie ou idéologiquement. Simplement, c'est là où je voulais en venir, le parti de Viktor Orban fait toujours, est toujours membre du grand parti populaire européen, puisque au Parlement européen et sur la scène politique de l'Union européenne, il faut savoir qu'il y a 8 très grandes familles politiques, hein, dont une qui est historiquement le PPE, Parti Populaire Européen, qui regroupe, on va dire, les partis de droite, conservateurs et démocrates chrétiens. Bon. Et donc, Orban et son parti sont toujours dans cette grande famille, et puis ils sont soutenus, si vous voulez, en gros, vous avez tout un tas de gens là-dedans qui refusent absolument que Orban et la Fidesz puissent être exclus du PPE. Bon, donc, il y a cette raison-là. Maintenant, par rapport à votre question, comment se fait-il que l'Union européenne n'ait pas sanctionné les dérives autoritaires de la Hongrie ? C'est parce que Orban est un type très très intelligent. Orban est un type très très intelligent, c'est-à-dire que si vous regardez juridiquement ce qui se passe, eh ben grosso modo, ça change à peu près rien. Et c'est pour ça que le concept qu'il faut utiliser ici, c'est celui de démocratie illibérale, qui est un concept qui a été inventé par un politiste américain qui s'appelle Farid Zakaria en 1998, à l'époque où il dirigeait la revue Foreign Affairs. La démocratie libérale, ça veut dire que formellement, on ne change rien. Vous avez toujours un état de droit, vous avez toujours la séparation des pouvoirs, vous avez toujours le pluralisme qui est garanti. Mais dans les faits, vous avez des pratiques gouvernementales et du parti majoritaire qui visent à éroder de plus en plus considérablement tout cela, ces piliers-là. Et c'est ce qui est en train de se passer en Hongrie, mais c'est très difficile à prouver juridiquement. Et c'est la raison pour laquelle, à la différence de ce que vient de faire le gouvernement polonais, qui lui a vraiment tapé à bras raccourcis avec tout un dispositif juridique sur le Conseil constitutionnel polonais, et qui du coup s'est fait épingler par la Commission, qui du coup s'est fait épingler par le Conseil de l'Europe, et qui du coup est au bord de voir se déclencher la procédure dont vous parliez, Hervé Gardette, qui pourrait mener, si ça va jusqu'au bout, à l'exclusion de la Pologne, si toutefois elle est votée à l'unanimité. On ne voit pas comment la Hongrie voterait à l'unanimité pour l'exclusion de la Pologne, mais peu importe. Voilà. Orban est d'autant plus dangereux qu'il est très, très intelligent.
Allez, Divine Martini.
Oui, moi, je voulais prolonger cette discussion en revenant sur la question, en effet, des principes et des valeurs. Et moi, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une telle contradiction par rapport aux valeurs de l'Union européenne. Il ne s'agit pas de dire que les valeurs de l'Union européenne, telles qu'elles s'est construites originellement, seraient les valeurs de Viktor Orban. Absolument pas. Mais j'ai été intéressée dans la presse de ces derniers jours en lien avec l'affaire turque, de lire un article d'Arnaud Le Parmentier dans Le Monde qui disait l'Union européenne donc doit exclure la Turquie définitivement après cette affaire et disait-il respecter Montesquieu et l'économie de marché. Voilà. C'est la manière dont il définit les deux piliers de l'Union européenne, respecter Montesquieu et l'économie de marché. Et je pense que dans les deux cas il y a quelque chose de frappant, c'est que d'un côté Montesquieu, donc la séparation des pouvoirs. Est-ce qu'on est vraiment encore dans une situation de séparation des pouvoirs quand une troïka composée de la BCE, de la Commission européenne et du FMI peut mettre un pays à genoux, comme ça a été le cas pour la Grèce. Quand une multiplication de référendums sont mis sous le boisseau et qu'on ne respecte absolument pas justement les peuples qu'on érige pourtant en principe même de cette Union européenne. Et puis, un peu en historienne, je voulais quand même revenir sur le fait que la construction européenne s'est fondée sur le principe justement d'une économie de marché absolument libéralisée. Et j'en veux pour preuve ce que disait François Mitterrand en 1983 quand il disait « J'ai le choix, et c'est un dilemme, j'ai le choix entre une politique sociale et une politique européenne ».
Donc vous dites finalement, il y a une forme de logique aujourd'hui dans l'évolution que prennent certains pays.
Je pense qu'il faut quand même le souligner fortement. D'ailleurs, Jean Lacouture, au moment où la décision a été prise de choisir plutôt l'Europe que les mesures sociales, Jean Lacouture disait « Ah, mais voilà, l'Europe l'a définitivement emporté sur le socialisme ». Je trouve cette formule assez intéressante dans la mesure où, et ensuite on a cessé d'intensifier la concurrence par tous les traités successifs et la stratégie de Lisbonne qui visait même dans le domaine de la connaissance à travailler sur la compétitivité, etc. Bon, enfin, voilà, c'est ça la construction européenne dans ses fondements même. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que il faut un Lexit. Un Lexit, donc pas un Brexit au sens où
c'est
il serait
nationaliste.
Le Lexit, c'était une campagne, mais c'est quand même assez frappant, Hervé, que vous ne connaissez pas le Lexit.
Ça va me revenir, mais...
Parce que pendant la campagne, notamment en Grande-Bretagne, sur le référendum, des mouvements de gauche, qu'on a trop peu entendus dans les médias, disaient qu'il faut une sortie, mais par la gauche, et pas du tout nationaliste. C'est intéressant que dans ce mot Lexit, donc left, une manière de...
Left,
gauche, exit, une sortie par la gauche, c'est-à-dire une sortie qui n'a rien à voir avec le nationalisme prôné par le Brexit, qui consiste à faire sortir la Grande-Bretagne de l'Union, mais vraiment une sortie, se dire on sort de cette machine infernale et on construit une Europe vraiment tout autrement.
C'est probablement lié à mon état de fatigue, mais j'ai aucun souvenir de ce Lexit. Sylvain Bourmeau.
Alors moi, je voudrais proposer une left-hand, en quelque sorte, c'est-à-dire une entrée par la gauche dans l'Europe, parce que je pense que l'Europe, elle reste entièrement à construire, et que pour construire l'Europe, c'est pas de valeurs dont on a besoin, parce que ce discours des valeurs, au fond, il va nous ramener à des déclarations, à des chartes, au fond, à une vision juridique de l'Europe. Donc, et comme l'a dit Ludivine Bantini, il y a les deux dimensions, il y a les textes juridiques et puis la politique économique, quoi. Et en gros, on a construit l'Europe à partir de deux outils, le droit et l'économie. Alors que pour construire l'Europe comme une nation européenne et comme une démocratie européenne, avoir un espace public européen, c'est pas de l'économie et du droit dont on a besoin. C'est des sciences sociales, c'est de la sociologie. C'est-à-dire que si on veut construire une nation au sens de Marcel Mauss, je fais une petite parenthèse, on parlera de ça demain à la suite dans les idées, avec Cyril Lemieux et Bruno Carcianti qui viennent de publier un livre dans lequel ils ont des pages lumineuses sur un projet européen qui pourrait être pensé comme ça. C'est-à-dire ce texte formidable de Mauss écrit en 1920, deux ans après la fin de la Première Guerre mondiale, où des États-nations européens se sont massacrés et où il appelle à une sorte de société des nations européennes, mais pas au sens de l'ONU, à vraiment l'idée de défendre les nations, mais sachant qu'elles n'ont de sens que dans les relations entre elles. C'est-à-dire que c'est une position très internationaliste que défend Mauss. Et c'est comme ça qu'on aurait pu et dû construire l'Europe. C'est-à-dire en définissant la nation, non pas de manière conservatrice, xénophobe, nationaliste, ni de manière individualiste comme Ernest Renan, mais bien de manière holiste, de manière sociale, de manière socialiste, disons le gros mot.
C'était un
comme
peu tard, mais
un
non,
collectif.
Non
pourquoi ce serait tard? Ce tournant n'a jamais été pris. Je pense qu'il y a un enjeu énorme, parce que de toute façon, à la fois on peut considérer que c'est tard et on peut considérer que de toute façon, en dépit de la manière dont existe l'Union européenne, l'Europe est en train de se construire comme ça, par ses populations, par les échanges, par le partage d'une culture, par la circulation entre les pays. Parce que malgré tout, l'Union européenne n'a pas fait que du mal de ce point de vue-là. Elle a permis la circulation des Européens beaucoup plus facile. Elle a permis notamment d'aller faire des études ailleurs en Europe, d'aller travailler. Et tout ça, c'est très lent, c'est extraordinairement lent. Mais finalement, in fine, je veux croire que c'est ça qu'on construit. Simplement, il faudra trouver un moment, la façon de traduire politiquement cette Europe des citoyens, cette Europe politique qui, pour l'instant, n'a jamais existé institutionnellement parlant.
Je ne sais pas si ce travail-là pourra être fait d'ici le 60e anniversaire du traité de Rome, Sylvain Cagne. Il y a une déclaration commune qui est en cours d'élaboration, semble-t-il. Ça va être l'objet forcément de compromis, mais on n'ira sans doute pas aussi loin que ce qu'imagine Sylvain Bourmeau.
Mais en même temps, disons, je ne suis pas d'accord avec la première partie de ce que vient de dire Sylvain Bourmeau, et sachant qu'il se contredit lui-même dans la deuxième partie de son intervention. C'est-à-dire que...
Ça lui fait froncer les sourcils.
Oui, parce que, ce que vous appelez de vos voeux, Sylvain, c'est l'Union européenne. Alors après, on peut dire effectivement, les politiques publiques qui sont menées dans le cadre de l'Union européenne, vous pouvez les trouver trop ceci ou pas assez cela, mais Le fait est que ce qui n'a pas été possible dans l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire après la Première Guerre mondiale, a été possible après la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui est quand même totalement inédite, non seulement dans l'histoire de l'Europe, mais dans l'espace mondial, voire dans l'espace du monde. C'est-à-dire que on a des communautés nationales qui ont bazarder le nationalisme. C'est-à-dire qu'on est dans une construction post-nationaliste. C'est-à-dire que vous avez quand même une association d'États-nations. Bon, moi, c'est pour ça que je préfère appeler ça démocratie d'États-nations, avec toutes les ambiguïtés, les imperfections que ça suppose. Effectivement, il n'y a pas de peuple européen, il n'y a pas de nation européenne. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous quand vous dites on va pouvoir refaire, comme on va pouvoir construire une nation européenne. Là, vous êtes encore plus idéaliste que Mauss. C'est-à-dire que la réalité, c'est qu'il y a des États-nations avec des nations qui ne sont plus nationalistes. C'est-à-dire que les Allemands ou les Français acceptent de définir dans un compromis un certain nombre de positions en termes de politique publique avec les Irlandais et les Estoniens, alors qu'il y a encore 60 ans, ils considéraient que les Estoniens et les Irlandais, c'était des tout petits pays dont on n'avait rien à faire. Et maintenant, ce n'est plus du tout le cas. Donc, le fait est qu'il y a, ce que j'appelle encore une fois, faute de mieux, une démocratie d'État-nation, où il n'est plus question, en tous les cas, à ce stade, pour la majorité de chacun de ces peuples nationaux, de considérer que ma nation est supérieure à celle de mes voisins, et qu'il y a une hiérarchie, et que puisque la mienne est supérieure, je peux soit la dominer, soit l'envahir, soit la conquérir, soit la coloniser. Et ça, c'est quand même... Enfin, il me semble que ça correspond exactement à ce que vous disiez. Alors après, non,
juste un mot là-dessus. Je pense que l'Europe aujourd'hui est le théâtre d'un face-à-face entre deux idéologies, que sont le libéralisme d'un côté, le nationalisme de l'autre, qu'elles fonctionnent de manière imbriquée, et que malheureusement le troisième terme, le troisième personnage du livre de Lemieux et Carcenti dont je parlais, c'est le socialisme, et qu'il a été exclu depuis une vingtaine ou une trentaine d'années. La social-démocratie a joué un temps son rôle en Europe, elle ne le joue plus aujourd'hui, elle est évacuée, et ce sera ce qu'on aura probablement au deuxième tour de l'élection présidentielle française, cette espèce de couple entre libéralisme et nationalisme.
On va voir l'Europe uniquement à travers le prisme français.
C'est généralisé, et puis je dirais d'ailleurs qu'il y a à la fois cette opposition entre nationalisme et libéralisme, mais il y a aussi une imbrication, parce que ces nationalistes peuvent être par ailleurs tout à fait libéraux, voire ultra-libéraux, voilà.
Il ne faut pas faire comme si les nationalismes ont gagné.
Je suis assez sceptique sur ce que dit Sylvain Kahn, dans la mesure où quand vous laissez entendre que l'Europe, l'Union européenne, hein, parce que moi je déteste l'assimilation entre Europe et Union européenne, je déteste qu'on parle d'europhobe quand il s'agit de critiquer les institutions de l'Union européenne. Mais bref, l'Union européenne n'a fait qu'alimenter, alors pas seulement l'Union européenne, mais aussi les politiques de gouvernement nationaux, mais alimenter le nationalisme comme jamais.
Je pense qu'on est, de ce point de vue, dans
une régression. On a l'impression d'être revenu à des situations d'ultranationalisme en raison même de ce sentiment de dépossession, parce que la démocratie, j'essayais de le dire tout à l'heure, et même des gens comme Martin Schulz, qui ont été quand même, comme Schulz a été président du Parlement européen, il a dit très clairement que les décisions étaient prises en dehors, je le cite, en dehors de tout contrôle démocratique. Et ça, vraiment, évidemment, ne peut qu'en avoir la conviction, et donc ce sentiment d'une dépossession mène malheureusement, et c'est pour ça qu'il faut aussi tenir un discours qui rompe radicalement et avec l'Union européenne et avec ces nationalismes de repli identitaire, tenir un discours très ferme sur la reconquête d'une démocratie réelle.
Une courte conclusion, Sylvain Kahn.
Oui, en deux mots, on n'a pas le temps, ça. On l'aura sans doute un autre jour, Hervé, mais en deux mots, je crois que l'Union européenne, la construction européenne, n'a été rendue possible que parce qu'il y a un dépassement des nationalismes. D'autre part, je pense que l'Union européenne, son existence fait que les nationalismes, disons, restent quand même de très basse intensité. Faites attention, là, vous donnez l'impression que l'Union européenne favorise les nationalismes et que les nationalismes sont partout au pouvoir. C'est pas du tout le cas, c'est plutôt le contraire.
Eh bien, ce sera la conclusion pour aujourd'hui de cette passionnante discussion. Merci beaucoup à tous les trois d'y avoir participé. Sylvain Kahn, Ludivine Brantini et Sylvain Bourmeau. Sylvain, vous nous avez donné envie d'écouter, comme à chaque fois bien sûr, mais en particulier ce soir, la suite dans les idées demain à partir de 13h30. Si vous vous intéressez également aux questions des rapports entre l'Union européenne et la Turquie, c'était quand même le gros morceau du début de notre discussion. Je vous renvoie à la matinale du samedi avec Caroline Brouet qui demain recevra Ahmet Insel, qui est chroniqueur au quotidien Cumhuriyet, ancien professeur à l'université de Galatasaray. Elle reviendra sur ce premier anniversaire de l'accord sur les réfugiés et sur cette crise diplomatique entre certains pays de l'Union européenne et la Turquie. On se retrouve lundi s'agissant du grain à moudre pour poser la question suivante. La présidentielle va-t-elle accoucher d'un régime parlementaire? Il n'y aura pas de club des idées du grain vendredi prochain puisque nous vous proposerons une émission spéciale en public de 18h20 à 20h au studio 104 de la Maison de la Radio. Les économistes en campagne, nous serons en compagnie de 5 économistes engagés auprès des candidats à la présidentielle. Jacques Généreux, Julia Cagé, Philippe Martin, Robin Rivaton et Bernard Monod pendant près de 2 heures débattront des questions économiques.